Audiolib présente Les promesses orphelines de Gilles Marchand. Lu par Laurent Natrella. Pour Milo et Elliot. Tout tableau, et surtout tout portrait, se situe au confluent d'un rêve et d'une réalité. Georges Perec, La vie mode d'emploi. Qu'importe si j'ai pris ce train, puisque je l'ai fait prendre à des milliers de gens. Blaise Sandrard. Qu'est-ce qui fait une vie réussie? Succès professionnel? Succès amoureux, succès familial, amical, social, moral. J'ai longtemps cru que c'était une espèce de combinaison de tout cela. Une belle vie professionnelle et une famille aimante et souriante. Des pâtes dans l'assiette et un enfant dans le landau. À l'adolescence, je me suis dit qu'une vie réussie était une vie qui changeait le monde ou, du moins, qui participait au progrès. C'était au siècle dernier. C'était après les guerres mondiales. Dans ces années où on priait le ciel pour que ça reste de l'histoire ancienne et où on lisait les journaux pour vérifier si la guerre froide n'avait pas pris quelques degrés. Depuis, on a lancé des trains toujours plus rapides à travers les plaines, creusé un tunnel sous la Manche, construit des tours vertigineuses, permis aux hommes et aux femmes de tous les pays de se connecter en même temps sur les mêmes réseaux. On a envoyé des Concorde et des fusées dans le ciel. Et surtout, je dis surtout parce que je ne supporterais pas que l'on s'habitue à cet événement, on a marché sur la Lune. C'est que ça nous a apporté du rêve, cette histoire de conquête spatiale. C'était quand même mieux que de s'envoyer des missiles à la gueule. On rêvait grand. On rêvait loin. On rêvait ambitieux, aérien, rapide. On avait de l'amplitude dans les idées et de l'essence dans les moteurs. On ne manquait de rien niveau fantasme. Et ceux qui abandonnaient leurs rêves les laissaient pour les autres. Il y avait Gandhi, il y avait Martin Luther King, il y avait aussi Yuri Gagarin et Neil Armstrong. À l'époque, on parlait uniquement des hommes, mais ça m'allait bien dans la mesure où je m'apprêtais à en devenir un. Ça m'allait bien, mais je sentais que je n'avais pas les épaules. Je n'avais pas de prédisposition pour changer le monde. Je n'étais pas doué en maths, ni en physique, encore moins en chimie ou en biologie. Je n'étais pas non plus habile de mes mains. Lorsque je coloriais, je débordais. Lorsque je voulais coller un objet à un autre, c'était mes doigts qui se retrouvaient englués. Mes parents ont rapidement compris qu'il était plus sage d'exclure scie, sécateur et autres objets tranchants de mes loisirs. Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus déterminant si l'on a l'ambition de changer le monde. Je n'avais pas une âme de chef. Alors je n'étais pas exigeant, et je me disais que je me serais bien contenté d'un rêve d'occasion, un que j'aurais trouvé sur le trottoir quand j'étais gamin. Je l'aurais retapé, un peu lustré, et j'en aurais fait un beau projet de vie. Alors que les 30 gloriaient, j'étais enfermé dans une petite maison isolée au centre de la France. Il n'y avait même pas de trottoir devant chez moi. De l'herbe, ça oui, il y en avait. Des mauvaises, pour la plupart. Et un peu de gravier. Personne n'irait abandonner un rêve sur le bas-côté d'une départementale. À la limite, un automobiliste ingénieur en trop plein de projets. Mais qu'est-ce qu'il serait venu faire ici? Il n'y avait rien à ingénier là où j'habitais. Le temps filait. Et j'observais ça depuis chez moi. J'attendais les nouvelles de Paris, où j'étais né, parce que j'avais la sensation que c'était là-bas que ça se passait. Ou aux États-Unis d'Amérique. N'importe où, plutôt que dans mon hameau qui n'avait même pas de vrai nom. On l'appelait le hameau. À l'école, quand on me demandait où j'habitais, je devais indiquer le numéro de la départementale.